Je vous inviterai à prendre avec moi un passage dans l'Ancien Testament. C'est le livre d'Esther, de verset 9, de verset 11 à 25 du chapitre 9. Esther 9, verset 11 à 25. Je m'en vais vous lire donc ce passage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'aurait-il fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis. Et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e jour. Et il en fut un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent les villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie et de festin et de fête, d'où l'on envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Azirus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et que Mardoché leur écrivit. Car Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther, s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est un récit quand même assez sombre. sombre parce que ça montre une bataille. Mais une bataille où le peuple de Dieu sortira vainqueur. C'est pour ça que je vais donner à ce message le titre de « L'Éternel, Dieu des délivrances ». L'Éternel, Dieu des délivrances. Parce que l'Éternel n'oublie aucun de ses enfants. Pour refaire un peu d'histoire, il s'agit ici du livre d'Esther. Ce sont des événements qui se passent à Babylone, puisque le peuple d'Israël, à cause du péché, sera déporté pendant 70 ans à Babylone. Et pendant qu'ils seront déportés, bien sûr, Jérusalem restera en ruine. On dit que les murailles de Jérusalem étaient complètement détruites et le temple même de Salomon était complètement délabré pendant cette déportation. C'est dire que c'était des moments sombres dans l'histoire du peuple de Dieu. Et bien sûr, le peuple dans ce royaume, le royaume perse, était dispersé complètement dans ce royaume. Et parlons du livre d'Esther, ce livre vient compléter le livre de Daniel, le livre d'Esdras et de Néhémie, qui sont des livres qui ont été écrits pour décrire la vie du peuple d'Israël dans cette période vraiment difficile qu'était la déportation à Babylone. Malgré cette désobéissance qui a conduit à la déportation, le Seigneur ne va pas abandonner son peuple. Vous voyez, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de ce que nous ne faisons pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Même quand il punit ses enfants, il revient encore les réconforter. C'est ça, notre Dieu. Donc, le Seigneur va intervenir miraculeusement dans des événements qui vont marquer, n'est-ce pas, cette vie de déportation du peuple d'Israël. Et à plusieurs reprises, le Seigneur va venir de façon puissante apporter du réconfort et même accomplir des projets impossibles alors aux hommes. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Premièrement, il va permettre la reconstruction du temple. Ceci va se passer dans le livre d'Esdras, puisque le Seigneur va donner au temps du roi Cyrus à Esdras et à Zorobabel de reconstruire de façon miraculeuse, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem. Et par la suite, le Seigneur va aussi susciter des hommes et des moyens pour rebâtir la ville de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem seront donc refaites, reconstruites par Néhémie, dans le livre de Néhémie. C'était sous le roi Artaxerxas, qui était le fils de Assuérus que nous avons évoqué tout à l'heure. Et bien sûr, le Seigneur va aussi produire un miracle en sauvant le peuple d'Israël d'une destruction certaine, d'un génocide qui était préparé par le premier ministre Aman de l'époque, sous le roi Assuérus. Le Seigneur, grâce à l'entremise d'Esther et de Mardoché, va sauver son peuple de la destruction, de l'anéantissement général qui a été programmé par ce premier ministre qui était ennemi des enfants de Dieu. Voilà comment le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Oui, pendant que nous marchons, nous cheminons avec le Seigneur, s'il nous arrive de tomber, comme le peuple d'Israël est tombé, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il nous encourage tout simplement à nous relever le plus rapidement et de continuer la marche. Dieu prévoit toujours un plan de délivrance pour ses serviteurs. Nous allons le voir tantôt, parce qu'à un moment donné de son règne, le roi Ahasuérus va élever en dignité Aman. Cet homme sera placé au-dessus de tous les hommes dans le royaume. Et le roi va aussi ordonner que tous, sans exception, puissent s'incliner en adoration devant Aman. Tous, sans exception, y compris les Juifs qui étaient en déportation à Babylone à cette époque. Mais bien sûr, il y avait un homme dans la cour du roi appelé Mardoché. Cet homme, c'était un homme pieux qui avait la crainte de Dieu. Et bien sûr, Mardoché a décidé de ne pas s'incliner en adoration devant un homme. Son adoration, il a réservé à Dieu et non à Aman, fut-il le premier ministre du roi. Dans Esther 3, le verset 5. Et Mardoché savait ainsi qu'il courait un grave danger en ne s'inclinant pas devant Aman. Mais il va prendre cela sur lui. Il a préféré mettre sa vie en danger que de s'incliner devant un homme et déplaire à son Dieu. Ce qui était plus cher dans le cœur de Mardoché, c'était de plaire à son Dieu et non pas de plaire aux hommes. Oui, vous allez voir que lorsque nous décidons de faire la volonté de Dieu, de marcher selon les voies de Dieu, nous serons incompris. Que cela ne nous étonne pas, nous serons incompris. Nous serons taxés de tout ce que nous ne sommes pas. Nous serons accusés même à tort et nous serons persécutés. Que cela ne nous étonne pas. Parce que le Fils de l'homme est venu, il n'a fait que du bien. Il a apporté le salut à tous les hommes, mais il a été cloué sur la croix. C'est pour ça qu'il dit, mais s'il en est ainsi du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Lorsque Aman, bien sûr, fut au courant de ce que Mardoché avait pris la résolution de ne pas s'incliner devant lui, pris par son orgueil, il est rentré dans une colère noire. Et il a poussé sa méchanceté et il a décidé de faire périr Mardoché, pas seulement Mardoché, mais aussi tout le peuple juif qui était dans le royaume. Dans Esther 3, verset 6. Et mettant sa menace à exécution, Aman va accuser injustement devant Dieu, devant le roi, tout le peuple, comme étant un peuple insoumis, un peuple qui ne faisait aucun cas du roi, un peuple qui vivait tout simplement selon ses propres coutumes. Et en plus de cela, Aman va promettre au roi dans Esther, chapitre 3, verset 9, une grosse somme d'argent qu'il allait verser dans le trésor du roi. Vous voyez, il avait une haine viscérale pour Mardoché et pour les Juifs. Et le roi va finir par signer un décret demandant la mise à mort de tous les Juifs de son royaume. Voyez, le peuple d'Israël a toujours été poursuivi par des génocides. Il a donc fixé une date, le 13e jour du 12e mois de cette année. Tous les Juifs devaient être détruits. Et bien sûr, à cette époque-là, le royaume du roi Assyrus s'étendait vraiment depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'était un très grand royaume. Et on a envoyé toutes les lettres dans toutes ces provinces, des lettres, c'était 27 provinces, pour demander que soient mis à mort au temps fixé tous les Juifs. Et bien sûr, Aman était impatient, et il ne supportait plus de voir Mardoché devant la porte du roi. Et il décida qu'il allait faire périr, sans attendre, n'est-ce pas, le jour marqué Mardoché. Et il a décidé de le faire pendre au bois. Et comme dans le royaume, il n'y avait que le roi pour condamner quelqu'un à mort, il a donc résolu en son cœur d'aller en faire la demande au roi. Vous savez, le Seigneur tisse sa toile. Pendant que il attendait le lendemain pour aller voir le roi, dans la nuit, le roi a eu des insomnies. Il s'est mis à lire des archives de son royaume. Et c'est là qu'il va découvrir que Mardoché, à un moment donné de sa vie, a sauvé le roi d'un complot. Et toutes ces choses ont été consignées dans les annales du royaume. Et là, bien sûr, le roi a eu la vie sauve grâce à Mardoché. Dans Esther 6, les versets 1 et 3. Et ceci est conduit toutefois par Dieu. Vous savez, nous devons marcher sur la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. La parole de Dieu dit que nous devons aimer même nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas simple, dans Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas simple, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ce que Mardoché fera. Puisque Mardoché pouvait se dire, mais ce roi, Assyrus, c'est ce roi qui malmène mon peuple. Ce sera bien fait pour lui que ce complot puisse aller à son terme. Mais non, il a dénoncé ce complot. Et bien sûr, le roi a eu la vie sauve grâce à la dénonciation de Mardoché. Et bien sûr, Dieu va passer par cet acte de bienveillance de Mardoché pour susciter la faveur du roi à son endroit. Et ayant lu les annales, le roi va décider d'honorer Mardoché. Et le lendemain, quand viendra Aman pour faire sa requête au roi, pour que le roi puisse lui accorder la permission de pendre Mardoché le Juif sur le bois, avant même qu'il n'ait ouvert la bouche, le roi va lui adresser la parole en ces termes en disant, mais Aman, que penses-tu qu'on puisse faire à quelqu'un que le roi voudrait honorer? Et puis Aman s'est dit en lui-même, qui d'autre pourrait être honoré par le roi, sinon moi? Il s'agit bien de moi. Il a dit au roi, ô roi, si tu veux honorer quelqu'un, il suffirait de mettre ta couronne sur sa tête, de mettre sur lui ta tunique royale, de faire monter cet homme sur ton cheval royal et de le promener dans la ville en criant devant lui, « Voici ce que le roi fait à l'homme qu'il veut honorer. » le roi va se retourner vers Aman, va lui dire, tes conseils sont honorables. Ce que tu as dit, fais-le à Mardoché. Dieu renverse le plan de nos ennemis. Et voilà, Aman en train de tirer le cheval sur lequel, du roi sur lequel est monté Mardoché. C'est ainsi que le Seigneur va sauver Mardoché. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Tout simplement parce que Mardoché était un homme juste qui marchait dans la volonté de Dieu, qui préférait plaire à Dieu qu'aux hommes, qui ne faisait aucun cas, même des conséquences. Ce qui lui importait, c'est de faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur aime et honore de tels serviteurs. Oui, Aman va se retrouver coincé, contré dans ses projets. Vous savez, cette histoire me rappelle ce que dit le psaume 23 qui dit « Mais l'Éternel dresse une table en face de ses adversaires. » Il dresse une table en face de ses adversaires, de nos adversaires. C'est ce qui s'est passé ici. Le Seigneur a dressé une table pour Mardoché en face d'Aman. De nos jours aussi, le Seigneur crée des chemins de délivrance pour ses enfants. Ce qui s'est passé au temps de Mardoché ne s'est pas arrêté. Le Seigneur le fait encore de nos jours. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de traverser, sache que le Seigneur a déjà créé un chemin de délivrance pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas. Mardoché ne le voyait pas, ce chemin de délivrance. Mais le Seigneur l'avait déjà réservé. Ce que le Seigneur attend, c'est que tout simplement nous marchions dans l'obéissance à ses préceptes, que nous lui donnions gloire, exactement comme fut en son temps Mardoché. Bien sûr, ce choix, ce n'est pas toujours un choix facile. Comme Mardoché, nous devons être prêts à payer le prix. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que le Seigneur, au moment marqué, viendra à notre secours. Il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Dieu a un plan de délivrance aussi pour son peuple. C'est ce que nous allons voir encore là. Parce que par la suite, Aman, qui avait envoyé des lettres un peu partout pour que le peuple soit complètement, d'Israël soit complètement exterminé, ne va pas s'arrêter. Et bien sûr, c'est là où le Seigneur fait entrer en scène un autre personnage, la reine Esther. La reine Esther. Là encore, le Seigneur va construire un chemin de salut pour les Juifs qui étaient en déportation à Babylone. Tout d'abord, le Seigneur va commencer à baliser son chemin. Esther, c'était une esclave juive, vivant en déportation dans un pays lointain. Mais le Seigneur va tisser sa toile. Il va faire partir Esther de sa condition d'esclave à reine de Perse. D'esclave à reine de Perse. C'est ce que le Seigneur fait, tout simplement parce que dans Esther, vous verrez ça dans Esther 2, verset 17, la reine Vassi, qui était la reine de Perse à l'époque, va refuser tout simplement de se présenter devant le roi, ce qui va provoquer la colère du roi. Et cette reine sera répudiée. Et alors que cette reine était répudiée, on va chercher dans le royaume qui pouvait la remplacer. C'est ainsi que le Seigneur va guider toutes choses. Je vous en fais l'économie. Et l'esclave Esther sera reine de Perse. C'est ce que le Seigneur fait. Et lorsque la reine va donc apprendre ce qui attendait son peuple, ce que Aman avait comploté contre les Juifs, elle va décréter un jeûne de 3 jours. Non seulement elle, mais tous les Juifs du royaume vont rentrer dans un jeûne de 3 jours. Pourquoi les Juifs et la reine entreront dans un jeûne de 3 jours? Parce que Esther avait projeté, sous le conseil de Mardoché, de se présenter devant le roi. Et à l'époque, si quelqu'un se présentait devant le roi sans y être convié, il signait ainsi son arrêt de mort. À moins que le roi ne lui tende, n'est-ce pas, son bâton. Il fallait donc prier pour que les choses se passent, puisque c'était un arrêt de mort pour la reine, si elle se présentait devant le roi sans y être conviée. Et bien sûr, ils ont prié pendant 3 jours. La puissance du jeûne. Vous savez, pendant que le Seigneur Jésus s'adressait un jour à ses disciples, qui étaient rentrés parce qu'ils avaient prié pour un malade, et rien ne s'était passé. C'était un esprit mauvais. Les disciples avaient chassé pourtant d'autres esprits, mais cet esprit-là leur avait résisté. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait le rapport au Seigneur Jésus, et le Seigneur leur dit, mais non, ne savez-vous pas que ce genre, ce type, cette espèce d'esprit ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Donc le jeûne, c'est une couche, un instrument puissant, n'est-ce pas, qui conduit à l'exaucement de notre prière. C'est ce qui va se passer, parce qu'après 3 jours, Esther va se présenter devant le roi. Et dès que le roi la verra, il dit, mais Esther, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Il va lui tendre son bâton d'abord et il va lui demander ce qu'elle désire. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas, en introduction. Il dit, mais qu'est-ce que tu désires? Si tu veux même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Parce que toutes les choses ont été préparées dans la prière. Vous savez, nos combats et nos victoires, nous les gagnons à genoux. Pas autrement, à genoux devant notre Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et bien sûr, quand le roi va voir ce que Aman l'avait amené à faire au peuple, au risque même de faire tuer sa reine, puisque sa reine était juive. Qu'est-ce qui va se passer? Ironie du sort. Il va demander qu'on pende Aman sur la potence qu'Aman avait dressée pour Mardoché. C'est ça l'ironie du sort. Et c'est ça la puissance de notre Dieu qui renverse des situations. Personnellement, je suis arrivé à un point où je ne réfléchis plus avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu feras. Je sais une chose, tu le feras. Je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que tu le feras. Amen. Et voilà. La potence qui a été dressée pour Mardoché par Aman a servi à pendre Aman. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Deutéronome 32 au verset 35, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons le Seigneur seul juge, parce qu'il juge avec justice. Et en plus de cela, vous allez voir comment le Seigneur fait des clins d'œil. Mardoché sera nommé premier ministre à la place d'Aman. Et recevra aussi, en plus de cela, la maison d'Aman. Vous voyez comment le Seigneur renverse des situations. Puisque le décret signé par le roi ne pouvait être révoqué, c'était la loi des Perses et des Mèdes à l'époque. Une fois que le roi a signé, il a signé. Donc ce décret qui était signé pour la destruction des Juifs ne pouvait pas être révoqué. Le Seigneur va amener le roi à signer un autre décret qui permettait aux Juifs de se défendre, de défendre leur vie quand ils seront attaqués. C'est pour ça que j'ai commencé à lire ce verset, qui était très dur. Je sais que quand j'ai lu, qu'est-ce que c'est dur, on tue des personnes. Oui, c'était pour montrer, provoquer un électrochoc, même chez vous, et pour voir que ce sont des choses qui ont été faites, n'est-ce pas, dans l'ordre bien précis. Un ordre bien précis que le Seigneur avait tracé. Et bien sûr, le moment venu, le jour fixé, quand les ennemis des Juifs se sont levés contre eux, ils les ont battus, n'est-ce pas, avec panache, on peut dire, parce que le Seigneur était avec eux. Le Seigneur était avec eux. Et bien sûr, ce 13e et le 14e jour d'Agar sont désormais, pour le peuple juif, un jour de souvenir, un jour de fête, parce que le Seigneur a utilisé, n'est-ce pas, sa puissance pour les délivrer d'une mort certaine, d'une destruction certaine, d'un génocide certain. La parole du Seigneur déclare aussi dans Ésaïe 54, au verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre un enfant de Dieu est sans effet. N'en doutons jamais. Comme au temps de Mardoché, au temps d'Esther, Dieu prépare longtemps à l'avance des moyens pour sortir des situations d'épreuves auxquelles nous pouvons faire face. Quand viennent les épreuves, il faut tout simplement se dire qu'elles viennent pour passer. Amen. Et en plus, Dieu a utilisé des positions qu'il avait données à Mardoché et à Esther pour sauver son peuple. Vous savez, aujourd'hui, Dieu donne encore des positions à ses enfants. Il peut, tant que nous sommes dans cette salle, nous donner des positions. Peut-être dans un gouvernement, c'est un exemple, dans une directoire d'entreprise, dans une grande organisation. Il peut même, comme moi, vous proposez d'être représentant du personnel. Ce sont des positions que le Seigneur peut vous donner. Ce qui est certain, c'est que quand le Seigneur donne ses positions, place ses enfants dans ces positions, c'est pour un but précis. Il faut tout se demander, Seigneur, pourquoi je suis à cette position? Pourquoi je suis à cet endroit? Vous allez voir que le Seigneur va vous montrer pourquoi vous êtes là. Parce que Mardoché, Esther, ont été élevés en dignité. Vous voyez, parce que le Seigneur avait prévu qu'il allait les utiliser pour sauver son peuple. Toujours se demander, Seigneur, pourquoi je suis dans telle entreprise, pourquoi je suis à tel endroit, et le Seigneur va se révéler. Et en attendant que le Seigneur se révèle sur des situations particulières, sachons quand même qu'il y a une chose, n'est-ce pas, que nous pouvons faire d'entrée de jeu. Nous le savons tous. C'est veiller à ce que tous ceux qui nous entourent soient en contact avec l'Évangile. C'est notre témoignage qui fait la différence. Et d'ailleurs, nous allons commencer dimanche avec un événement spécial, le parcours Alpha. Nous sommes très enthousiastes pour voir ce que ça va donner. Le Seigneur Jésus utilise souvent tous ces instruments pour bénir, pour appeler à lui ceux qui sont encore, n'est-ce pas, en dehors du pâturage du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, il crée toujours un chemin, notre Dieu. Et ce chemin-là, c'est un chemin de délivrance pour chacun de ses enfants, pour son peuple tout entier. Le Dieu de Mardoché et d'Esther est le nôtre, ne l'oublions pas. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.